C'est dans l'Évangile, selon Luc au chapitre 5, que j'aimerais vous entraîner maintenant. Évangile de Luc, chapitre 5, verset 17. Une histoire que vous connaissez bien, en général on l'apprend pour évangéliser, mais ce qui a été écrit a été écrit aussi pour tous les chrétiens, même de vieille date. Il y a un enseignement dans chaque mot de Jésus. Luc chapitre 5 verset 17. Il se retirait dans les déserts et il priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé ? De dire, « Tes péchés te sont pardonnés ?» Ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. » On en voit tous les jours des choses étranges. Hein. Des bonnes et des mauvaises. Trois choses à vous dire dans ce texte. Premièrement, il faut quand même bien comprendre l'histoire. Deuxièmement, le Christ a donné un message à ses apôtres. J'aimerais que vous l'entendiez. Et troisièmement, le Christ vous donne un message. Jésus est dans la maison à Capernaum et les habitants de la ville viennent. Des enfants, des hommes, des femmes, des malades. Parce qu'on avait appris qu'il était chez lui. Et on connaissait déjà ses miracles. Et des opposants, des réfractaires sont venus de Jérusalem, de la Judée, pour s'opposer à Jésus. Les pharisiens. Tout un bataillon. La réunion va être difficile. Hein ? La situation est explosive. Mais Jésus continue parce qu'il ne faut pas s'arrêter aux obstacles du chemin. Et pendant qu'il annonce l'évangile dans la maison, à Capernaum, la puissance de guérison atteint les gens. Des guérisons, des gens guéris. Personne n'a dit dans l'assistance, mais qui est celui-ci qui fait de si grands miracles ? Personne ne l'a dit. Les guérisons ne touchent pas les pharisiens. Les guérisons ne les convertissent pas. Une guérison n'a jamais converti personne. C'est un appel magnifique. C'est un appel de Dieu à se convertir. Non, ils ne sont pas touchés. Ils sont venus pour le surveiller, contrôler ses paroles. Ils sont aveugles. Ils voient des miracles et ferment leur cœur. Je crois qu'ils auraient besoin d'être guéris. Rien de plus grave que d'être aveugle dans la foi, de ne pas voir le Seigneur dans sa vie et dans l'Église. Ils cherchent le défaut de Jésus, sans voir les qualités. Bon, il y a des miracles, d'accord, mais où est le défaut? Ils cherchent le défaut. Et quand Jésus va dire à ce pauvre handicapé, ce pauvre paralysé, quand Jésus va lui dire « Tes péchés sont pardonnés », mais qui c'est celui-ci? Quand il y a des miracles, personne ne dit « Qui est celui-ci ?» Mais quand il y a cette parole « Tes péchés sont pardonnés », tous les pharisiens disent « Mais qui est celui-ci ?» Dans leur cœur, ils le disent. Qui pardonne les péchés. Personne ne peut pardonner les péchés que Dieu seul. C'est vrai? Amen. Mais c'est par ce paralysé que le Christ va guérir, qu'il va montrer ce qu'il est justement, qu'il est celui qui pardonne. Le paralysé, parlons-en, il est dehors. Il ne peut pas entrer dans la maison. Il est dehors avec une foi à déplacer les montagnes. Et dedans, il y a des gens qui ont un cœur fermé. Que ça nous arrive jamais, non? D'être là avec un cœur fermé, alors que dehors, il y a des gens qui soupirent, qui attendent, qui appellent, qui téléphonent, qui disent « Seigneur, viens nous aider ». Nous voulons être, nous, des disciples du Seigneur, qui accueillent les futurs disciples du Seigneur. Amen. Et dans ce temps de carême que nous vivons, avec les prédications, nous voulons vivre cela. Le paralysé dehors, il va faire quelque chose que je voudrais vous demander, ne faites jamais cela parce qu'on n'a pas tellement des moyens pour réparer les toitures. Il est passé par le toit. Personne ne lui a laissé le passage. Et de terrasse en terrasse, avec des escaliers extérieurs, ils sont montés sur la terrasse qui était plate et là, ils ont commencé à démolir le toit. Jésus n'a pas dit « Arrêtez, arrêtez, j'ai tout compris !» Il les a laissés démolir le toit jusqu'au bout. Démolir le toit, ils ont enlevé des pierres plates, c'était comme cela que les toits se faisaient. Chez nous, on appelle ça des tuiles ou des ardoises, mais c'était des pierres plates. Et ils ont enlevé le bitume avec les roseaux, on mettait tout ce mélange dans la toiture pour rendre les toits étanches. Ils ont enlevé tout cela avec précaution parce qu'il ne fallait pas que ça tombe sur la tête de Jésus. Il ne fallait pas que ça tombe sur la tête des gens qui étaient là. Il fallait faire attention. Et puis, ils ont descendu Jésus avec des cordages. Pardon, ils ont descendu le paralytique avec des cordages sous les regards de Jésus. Vous avez pensé ce qu'a dit le propriétaire ? Peut-être que c'était Jésus le propriétaire, remarquez. Et avez-vous pensé que la réunion a été un petit peu perturbée? Parfois, il y a des enfants qui pleurent et qui chahutent dans la réunion. La réunion est tout à fait perturbée. J'ai l'impression que je suis comme Jean-Baptiste, je prêche dans le désert. Mais là, devant le paralytique qui descend, les auditeurs ont dû être un peu distraits. Mais il y a des temps dans la vie où il y a des imprévus, hein, et dans l'Église aussi. Jésus est sensible à cette action de foi, cette démarche de foi. Et c'est pour ces gens-là qu'il est venu. C'est peut-être pas très courtois, c'est peut-être pas très bien ce qu'il a fait là, de démonter le toit, mais Jésus a vu la foi de ces gens-là. J'aimerais vous dire qu'ils n'étaient pas quatre porteurs pour porter le paralysé, ils étaient cinq. Parce que le Père était avec eux, Dieu le Père. Jésus disait, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et quand quelqu'un vient à l'évangélisation, je me dis dans mon cœur, c'est toi qui l'envoies, Seigneur. C'est notre Père du ciel qui envoie les gens pour qu'ils trouvent le chemin de la vie. Ce n'est pas une distraction et ce n'est pas finalement un plaisir personnel que d'évangéliser. C'est vraiment l'œuvre du Père qui attire à lui. Et ça, il faut le savoir. Et Jésus va lui ouvrir les bras comme à nous ce matin pour nous accueillir. Et la foule là, elle a dû retenir son souffle. Elle espérait un miracle étonnant. Non. Jésus a commencé avec un miracle invisible. Tes péchés sont pardonnés. On est déçus ? Si vous saviez ce que c'est que le péché, vous savez ce que c'est. Quand on a un péché sur la conscience et qu'on ne peut plus dormir, qu'on gémit, que notre force n'est que sécheresse, que ça rumine en nous jour et nuit en mangeant, qu'on n'a plus la paix avec Dieu, la paix dans son cœur. Le péché est un obstacle aussi grave que la paralysie et qu'il faut enlever et Dieu seul peut le faire. Jésus n'a pas dit que c'est ces gens qui disent « il n'y a que Dieu qui pardonne », il n'a pas dit qu'ils se sont trompés. Je crois qu'il n'y a que Dieu qui pardonne. Et quand je pardonne à quelqu'un, sans le pardon de Dieu, il n'y a pas de pardon. Mais Jésus va leur montrer par ce miracle que Jésus, il est Dieu qui pardonne. Dieu qui ôte le péché. Vous le croyez ? L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et en pardonnant au même moment qu'il délivre un paralysé, je crois qu'il veut nous dire que le pardon, c'est une délivrance d'une paralysie. Le pardon, c'est un relèvement de la vie. C'est un retour à la vie. Le pardon, c'est un retour au Père. Dans un autre évangile, il dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Le paralysé n'a pas écouté la prédication. Il est arrivé au moment, avec du retard d'ailleurs. Il n'a même pas prié verbalement. Mais toute son attitude, toute sa démarche a été comme une prière. Il ne faut pas que la prière soit que sur nos lèvres. Il faut qu'elle soit dans tout ce que nous faisons. Toute notre vie doit être tournée vers Dieu comme une supplication. Il a été guéri devant tout le monde pour servir de signe que le Christ est celui qui pardonne et qui relève et qui ressuscite. Amen. Nous sommes des signes. Une famille, c'est un signe de Dieu. L'Église est un signe de Dieu, un signal de Dieu, un signalement de Dieu, un poteau indicateur de Dieu pour dire le chemin du ciel est devant vous. Ne l'oubliez pas. Guérison instantanée. Le corps de cet homme, créature de Dieu, a reconnu la voix du Créateur. Lève-toi et marche, et va dans ta maison. À travers ce miracle, le Seigneur va parler à ses disciples. Il va leur dire, voyez-vous, cet homme qui n'a pas pu rentrer dans l'église, cet homme qui n'a pas pu rentrer dans la maison avec vous, eh bien, des gens ont fait obstacle. Une leçon pour nous. On peut faire obstacle aux gens qui veulent s'approcher de Jésus. On peut faire obstacle parce qu'on est négligent, on n'y pense pas. On a la tête ailleurs, on est content de la réunion. On peut faire obstacle par des paroles mal à propos, décourageantes. On peut faire obstacle parce qu'on a un manque d'attention, on ne voit pas. On n'a pas vu. Personne n'a dit « Seigneur, arrête la réunion, il y a quelqu'un qui veut rentrer, il est paralysé. » Personne ne l'a vu. On peut être un obstacle supplémentaire pour les gens qui veulent s'approcher. Puis voyez-vous, aurait pu dire le Seigneur, pour s'approcher de moi, il faut une démarche personnelle. Il faut que les gens fassent cette démarche eux-mêmes en dépassant tous les obstacles. Il faut qu'ils arrivent jusqu'à moi. Voilà ce qu'il aurait pu leur dire. Le Seigneur sait ce qui se passe sur le toit. Il connaît toutes choses. Il sait même qu'un paralysé arrive dans la rue et qu'il cherche à entrer et qu'il fait qu'on le tourne autour de la maison, qu'on ne trouve pas de passage. Il sait et il laisse les gens aller jusqu'au bout. Il veut voir la démarche personnelle. Seigneur vous attend dans cette démarche. Il attend que votre prière soit une persévérance et une décision profonde qui ne s'arrête pas en vous avec le beau temps et les oiseaux qui chantent. Il faut continuer de chercher le Seigneur. Et puis, le Seigneur aurait pu dire à ses apôtres, voyez-vous, il y avait 4 porteurs. Rappelez-vous cela, il faut que vous portiez les gens vous-même. Quelqu'un aurait dit, Seigneur, il y a 4 porteurs, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, de Luc et de Jean. C'est vrai, ce sont des porteurs, les évangiles, non ? Je crois que la première lecture qu'il faut donner aux personnes inconverties, ce sont les évangiles. La première réaction que j'ai eue, je lui ai dit 2 choses. D'abord, c'est plein de guérisons, et deuxièmement, ça se répète. Mais quand on lit bien, ça ne se répète pas toujours, et il n'y a pas que des guérisons. Il y a les porteurs, mais vous devez aussi porter les autres. Voilà ce que Jésus aurait pu dire. Vous devez les aider à dépasser les obstacles. Vous devez les encourager. Vous devez les placer avec douceur devant le Seigneur. Il ne s'agit pas de descendre le paralysé n'importe comment. Il faut le descendre avec équilibre. Il ne faut pas le faire tomber. Il ne faut pas le bousculer. C'est pareil avec les personnes qui viennent le dimanche, dans la semaine, que vous rencontrez. Il faut les porter avec douceur, sans les bousculer et sans les faire tomber. Chacun de vous aurait pu dire le Christ. Chacun de vous est un porteur des autres. Chacun de vous est un cordage d'amour. C'est par vous que les gens viendront. C'est par vous. Et le Seigneur, il a vu la foi de ces 4 porteurs. Dans un autre évangile, il est dit, voyant leur foi. Et le Seigneur voit la foi de la communauté. C'est important, la foi de l'Église, quand on amène quelqu'un de malade au Seigneur. Je pense qu'il ne faut pas rester replié sur soi et s'endormir. Il faut que chacun ait la foi. Pour que, en priant pour quelqu'un, que la personne soit guérie. J'ai beaucoup aimé cette parole de l'Évangile. Voyant leur foi, le Seigneur dit. Je crois qu'il faut voir que le Seigneur voit la foi pour guérir les malades. Avons-nous la foi que le Seigneur peut guérir les malades ? Je crois qu'il faut que nous prions pour eux. Et puis, le Seigneur aurait pu dire, voyez-vous, je connais les murmures cachés dans les cœurs. Les pharisiens murmuraient. Qui c'est celui-là qui pardonne les péchés ? Dieu seul peut pardonner. Qui c'est celui-là ? Et Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit. Attention, frères et sœurs. Attention, pour moi aussi. Le Seigneur connaît les murmures cachés. Il connaît les pensées secrètes. Il sait tout ce qui est en nous et qu'on n'a jamais dit, mais qui nous empêche d'avoir la joie dans le Seigneur. Les pharisiens auraient dû être surpris que Jésus connaisse leurs pensées. Pas du tout. Ils se ferment encore plus. Ils résistent. Jésus peut-être veut dire à ses apôtres, vous savez, il faudra vous attendre à des résistances. Ne pensez pas que devant vous, la police va ouvrir la route pour que vous passiez et que vous aurez des drapeaux devant vous. Ce sera difficile. Vous rencontrerez la dureté des cœurs, mais continuez, prêche en toute occasion, favorable ou non, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus l'Évangile. Prêche l'Évangile. Amen. Mais à travers ça, est-ce que le Seigneur ne veut pas dire à ses disciples, mais vous aussi, vous aurez besoin de discernement. Vous aussi, il faudra voir la foi. On prépare 18 baptêmes. Bon, merci Seigneur, mais c'est la préparation. Mais j'essaie de voir dans un entretien préliminaire, avant de passer au cours de baptême, j'essaie de voir la foi. C'est pas facile de voir la foi. J'essaie de voir si les gens n'ont pas simplement un emballement, ou si simplement ils veulent vivre un sacrement pour régler quelque chose, je ne sais pas. J'essaie de voir s'ils ont la foi dans le Seigneur. Il faut que les disciples voient la foi. Il faut aussi que les disciples, avec cette histoire, aient la parole à propos, qu'il ne parle pas n'importe comment, qu'il sache la parole sage qui convient à chacun. Et puis, il faut également qu'il sache discerner la soif de Dieu. Devant le paralysé là, qui passe par le toit et qui démonte le toit, ils auraient pu dire « il gêne la réunion, il trouble tout le monde, c'est un trouble-fête, mais qui c'est celui-là » Il fallait discerner que cet homme, il avait une soif de Dieu. Rappelez-vous Élie, pas le prophète, mais le sacrificateur Élie, quand il a vu Anne qui n'avait pas d'enfant et qui priait dans la maison de Dieu et qui murmurait, sans élever la voix, il ne parlait pas, on n'entendait pas ce qu'elle disait. Elle murmurait, « Seigneur, donne-moi un enfant, j'en ai besoin. » Et Élie, il a vu ça, il n'avait pas des bons yeux. Élie, c'est vrai, il n'avait pas de lunettes à l'époque. Puis il lui a dit, va cuver ton vin. Il faut le faire. Hein. Va cuver ton vin. Et sans discernement, on pourrait ne pas voir la soif de Dieu. On pourrait ne pas voir chez la jeunesse ou chez les personnes qui viennent un désir d'être avec Dieu, leur intention. Donc le Seigneur, à travers cela, a donné une leçon à ses disciples. Maintenant, je vais conclure en revenant à nous. Et je pense que le Seigneur veut nous donner aussi ce matin une leçon. Je pense que ce paralysé, dites-moi si je me trompe, c'est chacun de nous. Vous voulez bien que ce matin, on dise cela ? Ça ne vous dérange pas ? Chacun de nous, nous avons besoin de pardon. Chacun de nous, moi c'est mon cas, nous aspirons à entendre une parole du Christ qui résonne dans notre cœur. Chacun de nous, nous avons besoin d'une rencontre pour régler avec le Christ certains troubles conjugaux, certaines difficultés familiales, certains blocages sentimentaux. Chacun de nous, nous sommes sur le brancard, portés par le Seigneur, certes, et on a besoin d'une connaissance de Dieu, d'une révélation du Christ. Jésus, là, nous lance un appel, parce que l'histoire n'a pas été écrite simplement pour dire « hier, il s'est passé cela », mais pour dire « aujourd'hui, nous sommes dans la même situation ». Peut-être que chacun de nous, nous avons besoin de redémarrer avec le Seigneur. Paul disait aux Galates, « Vous couriez bien. Qui vous a arrêté ?» Allez, regardez en arrière un peu. Ah, regardez ces temps où vous étiez remplis de joie et de feu. Vous vous rappelez ? Vous alliez à la maison du Seigneur en chantant des cantiques, non ? Vous chantiez de tout votre cœur sans faire attention si c'était le même cantique que dimanche dernier. Vous partiez avec des traités pour inviter les gens, vous parliez, vous étiez heureux. Vous étiez confiant dans les adversités, vous étiez sans crainte devant les obstacles, vous sautiez, vous rebondissiez. Qui vous a arrêté, paralysé ? Qui s'est dressé contre vous pour qu'aujourd'hui, il semble que vous soyez dans la caverne comme David, enfermé dans sa caverne. Qui vous a paralysé ? Quelle déception ! Quelle épreuve sentimentale peut-être vous a paralysé ? Le Seigneur pourrait dire, vous êtes paralysé, vous avez perdu votre premier amour. Vous ne pratiquez plus des œuvres agréables à Dieu. Vous les pratiquez peut-être en gémissant contre les autres, je ne sais pas. Qui vous a paralysé ? Est-ce qu'on a besoin d'entendre cela ? Courez-vous toujours dans la vie chrétienne, dans la carrière chrétienne ? Vous savez, le paralysé, il a beau donner des ordres à ses jambes n'obéissent plus. Et parfois, il y a des chrétiens qui voudraient, mais qui n'ont plus la ressource, n'ont plus la force, n'ont plus l'enthousiasme, la joie, l'entrain. Seigneur, guéris-nous. Amen. Peut-être que vous ne vous approchez plus de la cité céleste. Quand on prie, on s'approche du sang de Jésus, on s'approche du Christ, on s'approche de la chorale des anges. Ô Seigneur, donne-nous la force de te chercher. Amen. Donne-nous de nous relever, de repartir dans une nouvelle jeunesse. Amen. Peut-être que pour cela, il faut enlever les pierres qui nous séparent de lui. Le paralysé, en arrivant sur le toit avec ses quatre amis, il a dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On enlève les pierres. Et voilà, tant pis. On paiera après. Ils ont bien assuré, de toute façon. Alors, ils ont commencé à enlever les pierres. Ça a demandé du temps quand même. Et je pense que peut-être nous avons des pierres à enlever en nous. Ça va nous demander un peu de temps. Ça ne va pas se faire comme ça, en quelques secondes. Peut-être même ce sera des pierres qui représentent le renoncement. Des pierres très dures de pensée qu'il faut dominer, de situations passées sur lesquelles il ne faut pas revenir, il ne faut pas regretter le mal qu'on a quitté, etc. Il faut enlever des pierres. Non ? Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Je crois que, à travers cette histoire, on pourrait en parler longtemps. Hein. Je pense que cette maison, elle représente notre cœur. La maison où était Jésus. Notre cœur qui est fermé, notre cœur qui est encombré, on ne peut pas y rentrer, et Jésus est dedans. Et Jésus nous attend dans le lieu secret, et c'est écrit hein, dans l'Évangile. Il est là dans le secret, on ne peut pas rentrer. Nous sommes dehors, occupés à plein de choses, et lui, il est dedans, et il nous attend. Vous voulez que ça dure comme ça longtemps ? Vous voulez que ça s'arrête ou que ça continue ? Je crois que le Seigneur nous attend, il faut enlever les pierres et descendre jusqu'à lui. Cette histoire, voyez-vous, elle représente la prière. Cette prière qui doit dépasser les obstacles et qui doit descendre là où est Jésus. Descendre tel que nous sommes, avec nos péchés, nos paralysies, nos tristesses, nos chagrins. Il faut descendre sous les regards de Jésus. J'aurais pas voulu être à la place du paralysé, et vous ? Là, comme ça, en public, devant tout le monde, il sent le médicament, et il n'est pas terrible. Hein. Il n'est pas dans sa tunique de soldat, avec ses bottes et sa ceinture. Il descend comme un malade, il descend comme un infirme. Il aurait peut-être préféré rentrer comme tout le monde, arriver à l'heure, arriver, trouver une place dans la foule, écouter le Seigneur, alléluia. Il aurait voulu tout ça, puis il arrive là comme un malheureux, comme un misérable. Mais je crois qu'il faut que nous entrions dans la présence de Dieu tel que nous sommes. Amen. Oui, Seigneur, je n'ai pas des bons sentiments envers celui-là ou celle-là. Oui, Seigneur, je dénigre, je dis du mal sous forme de bien. Tout est possible. Seigneur, je viens tel que je suis, je sens le médicament aussi, je ne vais pas bien. Seigneur, délivre-moi. Je crois qu'on a besoin de retrouver cette prière, non ? Et puis, peut-être aussi que nous portions les uns les autres. Si chacun portait déjà une personne, bon, quatre si vous voulez, mais au moins une personne qui a besoin. Parce qu'il y a une sœur là, de l'Assemblée qui a été menacée. Et là, c'est la vérité, toute la vérité, je ne prêche pas des mensonges. Il y a une sœur de l'Assemblée qui est repartie pour le décès de sa maman en Haïti, c'est la sœur des Ruisseaux, et puis elle s'est retrouvée avec une arme à feu sur la bouche. Puis on lui a dit, tu vas nous donner tous tes bagages, tout ton argent, tous tes papiers, toutes tes affaires. Puis elle a tout donné, évidemment. Elle a été traumatisée. Et la famille était là, ils n'ont rien pu faire. Et la police a dit à cette femme, notre sœur, Madame Dirbisseau, qu'on connaît, vous avez une chance extraordinaire, on ne comprend pas. Vous auriez dû être tuée. Parce qu'en général, ils prennent tout et ils tuent les gens. Alors notre sœur est là et on a pensé à elle cette semaine, avant de savoir que ça arrive. Je l'ai su hier soir. On a besoin de la porter, non ? Il faut qu'elle refasse toutes les démarches, qu'elle refasse des papiers pour revenir. Elle a perdu son billet d'avion, etc. Bon. Mais enfin, elle est vivante. Amen. On a besoin de porter les autres. Lève-toi et marche ! Donne-moi cet ordre, Seigneur. Donne-nous cet ordre. Est-ce que quelqu'un n'a pas besoin de cet ordre aujourd'hui ? Départ époustouflant, le paralysé là, depuis des années, il se lève, il prend son grabat et il passe à travers la foule qui n'a pas voulu le laisser passer. J'ai bien aimé ça. Quel trait d'humour. Il passe dans la foule qui le laisse passer. Il n'est pas repassé par le toit. Il ne faut pas revenir sur les choses qu'on a laissées. Il ne faut pas recommencer à nouveau à revenir au point de départ. J'aime bien ce départ du paralysé. Et vous ? Vous savez ce que ça me rappelle ? L'Exode, le départ d'Égypte, où les enfants d'Israël ont été 400 ans esclaves, paralysés, misérables en Égypte. Et voilà qu'ils se lèvent et ils traversent la mer Rouge avec leur grabat sur l'épaule. Amen. Chacun est invité à sortir de sa paralysie, de son surplace. Des gens me l'ont dit, hein, vous savez, je vais vous dire, bon, je ne donne pas de reproche à personne. Personne. Mais des gens m'ont dit, on ne lit la Bible qu'au culte. On ne prie qu'au culte. C'est comme si que vous me disiez, je vois mon mari que le vendredi soir entre 23h et 24h. C'est tout. Faut... On a besoin de repartir. On a besoin de retrouver cet allant. Peut-être que, pour conclure, mes apôtres, peut-être qu'ils ont appris une grande leçon encore là, ce jour-là. Et si, supposition, hein, et si l'Église se paralysait, oh, est-ce que l'Église, si tout à coup, elle ne lisait plus, elle n'écoutait plus, elle ne priait plus, elle abandonnait son élan, ses premières œuvres, parce qu'on a des déceptions, certes, oui, mais est-ce qu'elle n'aurait pas la même difficulté à franchir les obstacles comme le paralysé ? Est-ce qu'elle n'aurait pas cette difficulté à traverser tous les raisonnements, toute la moralité du monde d'aujourd'hui, la méchanceté du monde d'aujourd'hui. Le monde est méchant aujourd'hui. Est-ce qu'elle n'aurait pas les mêmes problèmes que le paralytique pour descendre sous les regards de Jésus, traverser peut-être la carapace de l'indifférence du monde, la carapace du péché, la carapace des traditions. Si l'Église se paralysait, on ne pourrait plus sortir. On a beau dire, j'ai raison d'être comme ça, j'ai souffert, donc j'ai raison d'être comme ça. On peut le dire, mais n'empêche que, si on est paralysé, on n'ira pas loin. Guéris-nous, Seigneur. Amen. De même que le Christ a été relevé de la mort par la gloire du Père, dit Paul aux Romains, ainsi, marcher dans une vie nouvelle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Nous voulons dépasser toute chose mauvaise, la puissance du mal qui nous retient, complexité de la vie qui paralyse, les rancunes qui anéantissent la présence de Dieu en nous. Nous voulons, Seigneur, entendre cette voix du Seigneur en nous, car si tu parles dans notre cœur, alors nous allons nous mettre en mouvement. Nous allons dominer sur ce qui nous domine aujourd'hui. Nous allons être plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Nous voici devant toi comme ce paralysé de Capernaum qui est descendu dans ta maison un jour et auquel tu as d'abord pardonné le péché et que tu as guéri de son infirmité. Guéris-nous, Seigneur. Nous avons besoin d'un secours. Guéris ceux qui n'ont pas encore découvert le Christ au milieu de nous. Relève ceux qui sont encore dans le péché ou loin de toi. Éclaire ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Touche, mon Dieu, ceux qui commencent leur vie avec toi et touche tous les baptêmes qui se préparent. Que la puissance de Dieu se manifeste au milieu de nous et permet que nous la voyions, que nous ne soyons pas des aveugles qui ne cherchent que le mal et qui ne voient pas ton bien. Seigneur, bénis ton Église en cette matinée au nom de Jésus. Amen. Bénis ton Église. Amen.